L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor à midi. En direct et en rediffusion à 18h. On va donc dans le parc d'Armorique aujourd'hui, le parc dont l'une des vocations est de préserver et de mettre en valeur des espaces naturels remarquables, voire uniques. Et c'est le cas des Landes. Alors certes, il y a d'autres Landes ailleurs en France ou en Europe, mais celles du parc naturel régional d'Armorique sont notables par leur envergure. Les Monts d'Arrée, en tant que massif de montagnes, c'est le plus grand ensemble de Landes atlantiques de France et le plus important complexe de tourbières de notre région. Pourtant, ce n'est pas non plus gigantesque. 10 000 hectares si on compte aussi le Ménésum et Ménésmeur. C'est bien le signe que ces milieux, les Landes, les tourbières, sont rares. Pour rappel, puisqu'on a déjà fait des émissions sur le sujet, hein, vous pouvez les réécouter, il y en a plusieurs sur le site internet. Les Landes, ce sont des milieux dont les sols sont pauvres, avec des plantes spécifiques et de hauteur réduite, au mieux des petits arbres, des bruyères, des genêts, des buis, des ajoncs. La lande peut être sèche ou humide. Et puis les tourbières, ce sont des zones humides où l'eau empêche la dégradation rapide de la végétation qui s'accumule donc et forme de la tourbe. Mais donc aujourd'hui, on va parler d'un programme européen qui vise à protéger ces landes et tourbières, le LIFE. Alors c'est encore un acronyme, l'instrument financier européen, ça veut dire le LIFE Land du parc naturel régional d'Armorique, avec celui qui en est chargé, Yves-Marie Le Guen. Bonjour.
Bonjour.
Alors les Landes, j'ai bien décrit ce que c'était ou on peut rajouter des trucs?
Alors au niveau de la végétation, on était pas mal. On peut rajouter, donc on a parlé des bruyères. Donc les bruyères, c'est des petites touches de couleur violette, rose au moment de la floraison, donc l'été. On a également les ajoncs, donc là, c'est plutôt les touches jaunes là, pour le coup. Et également la molinie, qui est donc l'herbe, la graminée verte qu'on va voir de manière très importante dans la lande.
Qui fait des tourelles, on appelle ça des touradons.
Des touradons, oui, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, si vous allez vous promener aujourd'hui dans la lande, on est plutôt sur des couleurs un peu beige, marron. On parle un peu de couleurs de savane, de brousse.
Mmh, donc, tout à fait, c'est vrai, hein, ça ressemble. Alors que ça n'a rien à voir hein, comme milieu. Mais,
non, mais ça, au niveau de la couleur, ça ressemble pas mal. Ouais.
C'est vrai. Ouais. Et ouais, les arbres, les petits arbres, c'est quoi, des bouleaux au mieux? Enfin, c'est pas.
Alors nous, sur les landes qu'on suit, en tout cas, on essaie d'avoir des milieux qui restent ouverts, parce que c'est aussi la définition. On est sur des milieux qui sont très ouverts. C'est les paysages qu'on a dans les Monts d'Arrée. Donc, on est plutôt sur des très petits arbustes que sont les ajoncs et la bruyère aussi. Hein, on est sur du ligneux au niveau de la bruyère. Donc, dès qu'on arrive sur des bouleaux ou des saules, on essaie justement là d'intervenir pour éviter la fermeture du milieu. Donc, on essaie vraiment de rester uniquement sur l'ajonc et la bruyère.
Parce que sinon, c'est plus de la lande, en fait. Ça devient de la forêt,
ça
en fait.
Ça commence à évoluer vers le stade de la forêt. Voilà. Le stade du fourré, puis le stade de la forêt. Ça prend plusieurs décennies. On est sur des milieux pauvres, comme vous l'avez dit. Donc, ça prend un peu de temps.
Et les tourbières, les Finistériens les connaissent parce que souvent, il y a des caillebotis pour marcher dessus, entre guillemets, enfin, parce qu'il ne faut pas marcher dessus, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Donc, vu qu'on est sur des milieux très, très humides, effectivement, il y a souvent des aménagements type caillebotis, platelage bois, notamment dans le Yonnelaise, hein, à Brasparts, Brennilis, on peut s'y promener voilà, et profiter un peu de la végétation sans avoir les pieds complètement mouillés.
Et la tourbe était exploitée longtemps, enfin, c'est plus le cas chez nous en tout cas. Mais,
oui. Oui, effectivement, la tourbe était exploitée comme moyen de chauffage à l'époque. Hein, donc les gens venaient prélever des petites briquettes de tourbe qu'ils faisaient sécher au soleil pour évacuer toute l'eau et ensuite les utiliser en combustible dans la cuisinière à la maison. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Ça existe encore un petit peu dans certaines régions d'Irlande ou d'Écosse. Mais en tout cas, chez nous, c'est terminé. La tourbière est protégée. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, les tourbières sont des puits de carbone très importants, donc c'est vrai qu'on laisse le carbone là où il est très bien dans le sol plutôt que de l'enlever et de le brûler. Quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'avec ce programme LIFE, il s'agit bien de protéger les landes et les tourbières. Alors programme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est combien d'argent? Qu'il a mis en place? Pourquoi?
Alors oui, en quelques mots, alors, le programme LIFE, donc, il est porté par le parc naturel d'Armorique, effectivement, avec le département du Finistère et Bretagne Vivante en bénéficiaires associés, et avec le soutien financier, donc on a dit de l'Europe forcément, mais aussi de l'État et de la région. Donc c'est un programme qui dure 5 ans, qui a débuté en janvier 2021, qui va se terminer en décembre 2025. Un budget d'environ 1,6 million d'euros. Donc aujourd'hui, on est à peu près à mi-parcours, et l'objectif du projet, c'est de protéger, de restaurer environ 200 hectares de landes et de tourbières, et de les remettre en gestion auprès des agriculteurs. Bon, on va en parler un petit peu, j'imagine.
Voilà. Bien sûr.
Et de protéger aussi toute la biodiversité qu'on va y trouver.
Oui, parce que l'intérêt de ces milieux, donc on l'a dit, c'est notamment c'est des puits de carbone, c'est ça, et c'est aussi une biodiversité. Quels sont les autres intérêts éventuels?
Alors, on a parlé de la biodiversité floristique, on a pas mal d'animaux aussi qui sont très, très typiques de ces milieux, notamment des oiseaux qui vont nicher au sol dans la lande. Donc, on a trois espèces emblématiques sur notre projet. Donc, le courlis cendré, qui est un peu l'espèce star des monts d'Arrée. En Bretagne, on ne retrouve le courlis cendré que chez nous dans les monts d'Arrée. Donc, c'est vraiment, il y a un enjeu de conservation très fort pour le parc. Et on a également deux busards, donc le busard cendré et le busard Saint-Martin, qui aussi se reproduisent dans ces landes rases. Après, on a tout un cortège d'autres animaux, type amphibiens, reptiles, qui sont adaptés aussi à ces landes et ces tourbières froides et humides. Il y a aussi un intérêt par rapport à la gestion ancestrale de ces milieux, puisqu'on est sur
patrimonial, si on veut, quoi. Et paysager.
Voilà. C'est ça, ouais. Mm-hmm. On n'est pas vraiment sur des milieux naturels, à proprement parler, mais plutôt semi-naturels.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Parce que la lande dépend de l'homme. Mm-hmm. Donc c'est vrai que la lande est utilisée par l'homme depuis des siècles et des siècles, par de la fauche ou du pâturage. Et donc c'est vrai que si l'homme n'était pas là, on n'aurait pas ces paysages de lande tels qu'on les connaît et elles se refermeraient comme on l'a évoqué au début.
Et on aurait de la forêt, justement.
C'est ça.
Et donc c'est life, enfin il y en a d'autres, hein, il en existe d'autres. Hein. C'est pas forcément les landes, c'est pas uniquement les landes, je dirais, qui...
Non, les programmes Life Nature, comme le projet qui nous intéresse aujourd'hui, ça touche la biodiversité en général. Et donc on essaie de privilégier des espaces très sensibles avec une biodiversité aussi fragile qu'il faut préserver. Donc c'est pour ça qu'on arrive à capter des financements intéressants de l'Europe pour y mener des actions, quoi.
Alors les actions depuis 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour les landes et les tourbières du parc d'Armorique, concrètement ?
Alors concrètement, donc le programme Life, il identifie plusieurs volets d'intervention pour justement restaurer et préserver ces milieux, pour répondre aux menaces aussi qui ont été identifiées. Donc en termes d'action, on peut citer la coupe de résineux. Donc on est sur des plantations artificielles et monospécifiques qui datent des années environ 60-70.
C'est quoi, c'est du Douglas qu'on avait planté là, parce que bien en ligne, c'est ça, pour
c'est
faire
ça,
la construction
ouais. Bien en ligne, bien artificiel. Donc on a du Douglas, on a du mélèze, on a du pin maritime, beaucoup aussi plutôt sur la côte, sur côté presqu'île de Crozon, Argol. Donc c'est des plantations, quand vous vous y promenez en dessous, hein, tout est homogénéisé, on n'a presque plus de vie là-dessous. Donc on essaie quand c'est possible, de couper ces boisements pour avoir un retour à la lande. Donc ça, c'est une des actions phares du projet.
Les résineux, c'est à cause de la lumière ou c'est aussi parce qu'ils créent une acidité, les aiguilles de pin créent quelque chose en particulier qui tue le milieu ou...
Alors, c'est vrai qu'on entend souvent que les résineux acidifient le sol et puis effectivement, les aiguilles, en s'accumulant sur plusieurs décennies, vont créer une couche vraiment très épaisse et vont totalement étouffer la végétation en dessous et complètement perturber la bruyère qui était présente naturellement, quoi.
Ah ouais, parce que ça se dégrade pas assez vite, en fait, c'est ça ?
Oui, ouais. C'est ça, ouais. Uh-huh. Ouais. Donc nous, on essaie d'intervenir sur ces parcelles de résineux, alors uniquement les parcelles qui ont été récoltées une seule fois. Parce qu'on s'est rendu compte que les parcelles qui ont déjà été récoltées puis replantées, en fait, la banque de graines de lande initialement présente n'est plus viable et on n'aura pas un retour à la lande possible malgré l'intervention de l'homme.
Ah oui, et parce que ça se fait pas de semer de la lande.
Alors, ça se fait pas. Ça se fait un petit peu. On a des collègues gestionnaires européens qui ont tenté le coup en Grande-Bretagne, il me semble peut-être aussi aux Pays-Bas, qui récupèrent en fait quand ils vont faucher la lande. Ils ont un système un peu comme une moissonneuse batteuse, si vous voulez, mais qui récupère en fait les graines de lande et qu'ils vont ensuite ressemer. Alors là, on est vraiment sur des milieux qui ont été très, très endommagés par l'homme et c'est la dernière solution en fait qu'ils ont trouvée. Donc, venir, comme vous dites. Semer la lande.
Et ça fonctionne ? Enfin, ils arrivent à faire...
Alors, c'est une action qui est très récente. Le recul n'est pas encore assez important, mais a priori, ils auraient des retours assez encourageants, en tout cas. Ouais. Ouais.
Donc, le programme Life, en tout cas dans le parc d'Armorique, vous enlevez des résineux, pas forcément sur des parcelles qui appartiennent au parc, c'est ça ? Enfin, qui appartiennent au département. Hein,
sur des parcelles privées également, oui.
Parce que sur les 10 000 hectares, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui appartiennent au domaine public.
Non, c'est vrai que la grande majorité, on est sur du parcellaire privé, on est sur des très petites parcelles. C'est d'ailleurs un casse-tête pour nous d'identifier les propriétaires chez qui on va intervenir pour leur demander leur autorisation et voir s'ils sont OK pour s'engager avec nous dans le projet, quoi.
Ouais, qu'est-ce qu'ils disent en général, ces propriétaires ?
Alors on a tout, on a quand même la majorité, ils sont quand même plutôt attachés à ce patrimoine naturel. C'est souvent hérité de génération en génération, donc ils sont quand même très attachés à ça. Et voilà, quand on leur dit qu'on est là pour travailler dans le sens de la restauration de ces landes, pour maintenir ce paysage tel qu'ils l'ont connu depuis qu'ils sont tout petits dans les monts d'Arrée, donc on a plutôt un retour positif. Voilà, on en a quand même quelques-uns qui veulent pas forcément entendre l'action du parc, mais ça reste quand même assez minoritaire, je trouve. On est plutôt bien accueillis en général.
Donc l'exploitation du bois n'est pas forcément un frein,
Alors nous, par rapport à cette action de coupe de résineux, on va prioriser les boisements qui n'ont plus de vraie valeur économique aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'enjeu économique derrière, on ne peut pas faire ce qu'on veut aussi, surtout que le parc est là aussi pour promouvoir la sylviculture durable, on va dire. Donc nous, on se focalise sur les boisements qui n'ont plus de réelle valeur économique pour le propriétaire. Donc, du coup, le propriétaire n'est pas trop perdant dans l'histoire.
Bon, alors quelles sont les autres actions ?
Alors les autres actions, c'est lié à l'activité agro-pastorale ancestrale dans ces landes. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les landes sont historiquement fauchées ou pâturées par les hommes. Alors la fauche va servir de litière pour mettre sous les bêtes à l'étable. Et le pâturage peut permettre de reposer des zones de prairies, par exemple, pour que l'agriculteur puisse remettre les bêtes sur des prairies plus tard dans la saison. Donc pour cela, nous, on intervient avec une grosse machine type gros broyeur forestier sur des landes qui sont abandonnées. Donc une lande abandonnée, au lieu d'avoir une végétation entre 60 et 80 cm de haut, bah, la végétation, elle a continué à grandir vu qu'elle n'est pas utilisée par l'homme et elle peut atteindre 1,50 m, 2, 3 m de haut.
C'est quoi comme plante en général ?
Donc là, on arrive plutôt sur du gros ajonc qui prend le dessus. Puis là, on a les pruneliers, les aubépines qui commencent à arriver, les bouleaux que vous avez évoqués aussi. On commence à plutôt... On quitte le stade lande, on commence à arriver progressivement vers le stade fourré, pré-boisement. Quoi. Donc là, on intervient, on broie tout ça, cette végétation, de manière très très fine. C'est souvent deux passages du broyeur. Et du coup, on retourne à zéro, en fait. On repart sur un nouveau cycle, végétation neuve, entre guillemets.
Et vous le laissez sur place, le broyeur ?
Alors, on laisse sur place et l'agriculteur s'engage à venir l'année suivante avec son matériel agricole pour faire des rondes-balles et évacuer la matière pour en faire de la litière. Et ensuite, il viendra en moyenne, c'est tous les 3 à 5 ans, selon les parcelles, pour venir faucher ou pâturer sa lande et de manière à maintenir une végétation, je vous dis, entre 60 et 80 cm, avec un équilibre entre les bruyères, les ajoncs et la molinie.
Et parce que le pâturage, l'intérêt, ouais, c'est que les animaux mangent les arbrisseaux, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, le pâturage, c'est une technique de maintien de la végétation à une hauteur assez rase et convenable pour la biodiversité. On ne peut pas mettre n'importe quelle bête à pâturer la lande.
Oui, alors lesquelles, ouais.
Donc on est vraiment sur des espèces très rustiques qui sont adaptées à ce type de milieu. Donc c'est pour ça que les agriculteurs, c'est important d'avoir un agriculteur qui connaît vraiment ce métier de pâturage de lande. C'est pas n'importe qui peut pas le faire. Donc on est sur des espèces type la Bretonne pinoire qui est adaptée à ce pâturage, la
nantaise, une vache.
La nantaise aussi qui est adaptée. Par contre, si vous mettez une vache à lait type Primolstein, là, elle va pas se plaire du tout dans la lande, la pauvre.
Elle va se tendre les pattes déjà.
Ouais. Et on a également des moutons qui peuvent pâturer, des chèvres aussi qui sont adaptées, voilà.
Les landes de Bretagne, enfin les moutons, les landes de Bretagne, c'est notamment des moutons qui sont faits pour pâturer la lande.
Ils sont bien adaptés à ce type de milieu. Ouais.
Et ils y restent pas toute l'année. Ceci dit, après ils retournent dans leur prairie. C'est ça.
Ouais, ouais. C'est en fait on peut pas faire pâturer uniquement de la lande aux animaux. Ça fait partie du mix de parcelles qu'aura l'agriculteur. En général, ce qu'on voit nous dans les monts d'Arrée, c'est généralement les bêtes arrivent sur les parcelles vers la fin du mois de mai, quand la molinie est très grasse et très appétante pour les animaux. Et les animaux vont y rester, bon ça dépend, mais en moyenne, en général c'est environ un mois, puis après ça tourne, puis les animaux peuvent y revenir selon l'été qu'on a. S'il est un peu plus vieux, la molinie peut reprendre un petit peu, et là les bêtes peuvent rebrouter un peu de molinie au mois d'août, au mois de septembre, puis ensuite elles repartent plutôt sur les prairies ensuite.
Ouais, parce que malgré le pâturage, est-ce qu'il y a d'autres espèces qui peuvent réapparaître, ou malgré ou grâce au pâturage d'ailleurs, des espèces notamment floristiques ? Enfin, les moutons, ils ne vont pas tout brouter, la drosera ou je sais pas.
Si on parle de drosera, effectivement, elles sont souvent présentes là où les bêtes pâturent. Simplement, parce qu'on parle de plantes pionnières. Donc les plantes pionnières apparaissent là où la terre a été un peu mobilisée, un peu perturbée. Et donc ça marche aussi avec les sabots des animaux. Donc quand les bêtes passent beaucoup de temps sur une parcelle, les sabots font des ornières, des trous, l'humidité s'y installe,
oui. Il y a des petites flaques.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et ces petites plantes, ces petites droseras aiment bien ce genre de milieu, donc on va les retrouver par endroits. Après, ça favorise aussi donc, l'équilibre, comme on l'a dit, des trois plantes caractéristiques, donc molinie, bruyère et ajonc. Mais ça favorise aussi certains animaux. On a parlé des oiseaux notamment qui apprécient ces landes plutôt rases et ouvertes pour se reproduire. Donc le fait que les vaches viennent les brouter ou que l'agriculteur vienne les faucher, on maintient ces bonnes hauteurs de végétation. Et on a vu que la cohabitation se passe pas trop mal en général entre les animaux et les oiseaux, même si on essaye malgré tout de... Quand on sait que l'oiseau niche sur telle ou telle parcelle, on va essayer de voir avec l'agriculteur s'il peut essayer de décaler un peu peut-être le passage des animaux pour éviter de piétiner un nid peut-être. Voilà, on essaie d'optimiser quand même les choses.
Mmh. D'autres actions à signaler ou est-ce que après c'est de l'ordre du suivi de ces espèces ou...
Alors, on a encore deux grosses actions importantes qu'on peut évoquer. Oui, on travaille aussi sur des travaux de comblement de drains. Alors, les drains, faut imaginer, en fait, c'est des fossés à ciel ouvert qui ont été creusés avec une pelle, hein, tout simplement, dans les années 60-70, dans le sens de la pente. Parce que l'idée avec ces drains, c'est d'évacuer au plus vite l'eau de la parcelle en bas de parcelle pour favoriser la mise en culture, notamment pour planter des résineux, par exemple. Donc, ce qui fait qu'on a complètement perturbé le fonctionnement de la zone humide, parce que souvent, c'était sur des landes humides ou sur des tourbières. Et donc, on a détruit parfois même la zone humide. Donc, aujourd'hui, on essaie de corriger un peu les erreurs du passé. Donc, on vient boucher ces drains. Et là, l'objectif, c'est vraiment de stocker l'eau, justement. Plutôt que de l'évacuer, nous, on veut la stocker le plus longtemps possible sur la parcelle, de manière à rehausser un peu la nappe qui se trouve en souterrain et de favoriser le fonctionnement hydrologique, mais aussi le retour de plantes qui aiment bien ce genre de milieu très humide.
Oui, parce que là, c'est aussi de la prévention des inondations, même si c'est une petite échelle, donc l'impact est sans doute assez limité, mais on pourrait parler de prévention des inondations et aussi d'épuration de l'eau, enfin de filtration de l'eau,
ouais,
c'est ça ?
Oui, complètement, ouais, on est en plein dedans. C'est vrai que ça joue forcément, ces zones humides, elles jouent le rôle d'une éponge un petit peu. Donc c'est vrai que l'hiver, là, en ce moment, quand il pleut beaucoup, elle se gorge d'eau, donc là, on patauge complètement dans ces milieux. Et en fait, l'été, lorsque la pluviométrie va diminuer, ces milieux humides vont pouvoir relarguer progressivement l'eau aux petits cours d'eau, aux petits ruisseaux, pour maintenir la vie dans ces cours d'eau. Et par rapport à la qualité de l'eau, c'est vrai que ça joue un peu le rôle de station d'épuration naturelle. Toutes les plantes qu'on va y trouver vont capter tout un tas de composés qu'on va trouver dans l'eau et vont épurer de manière naturelle l'eau qui transite par ces zones. Quoi.
Là, depuis le début du LIFE, du programme LIFE, vous avez restauré combien de parcelles, enfin de quelle surface en gros ?
Alors, l'objectif du projet, c'est une restauration de 200 hectares. Là, on y est quasiment. On a 198 hectares. Bon, on peut dire qu'on y est quasiment arrivé. Donc, on a d'ores et déjà atteint les objectifs du projet. Donc, on est très content pour ça. Et ce qui veut dire aussi que maintenant, les travaux qui vont être faits cette année et en 2025, donc jusqu'à la fin du projet, ça va être un plus.
Du bonus ?
Ça va être du bonus pour le projet. Donc,
ah,
c'est
oui.
Un bonus pour les agriculteurs, pour la biodiversité, pour tout le monde.
Et il vous restera encore, par exemple, de l'argent pour acquérir quelques parcelles éventuellement ou...
Alors, il nous reste un petit peu de budget, mais surtout qu'on a, réussi à capter d'autres financements. C'est vrai que le programme LIFE, pour ça, c'est un levier hyper intéressant pour nous, pour aller capter d'autres financements, pour mobiliser d'autres acteurs. Donc, on a réussi à capter 340 000 euros de financement supplémentaire via le Fonds Vert, la Région Bretagne et la Fondation du Patrimoine. Donc, ça va nous permettre quasiment de, on pense, doubler les objectifs initiaux du projet. On espère arriver aux 400 hectares, voire un peu plus peut-être.
Ah oui. Bah une franche réussite.
Ouais, on est très content, c'est top. Ouais.
Et alors, vous suivez les espèces animales, oui. Végétales. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elles reviennent? Enfin, comment se porte-t-elle?
Alors là, pour les suivis, on n'a pas toutes les données encore aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit, on est à mi-parcours à peu près du projet. On est sur des milieux qui mettent beaucoup de temps à réagir. On est sur des sols très pauvres, on l'a dit en introduction tout à l'heure.
Donc, il y a une inertie, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça. Mmh. Qui dit sol pauvre dit effectivement un peu d'inertie. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas tous les paramètres encore pour conclure aujourd'hui. En tout cas, on a plusieurs suivis qui sont mis en place. Effectivement, on a des suivis sur la végétation, donc des suivis floristiques. Là, l'idée, c'est que les botanistes passent avant l'intervention, avant les travaux, faire un état initial, en fait, pour voir un peu comment se situe la parcelle.
Et ensuite, c'est les botanistes de Bretagne Vivante, notamment, c'est ça ou...
Non, pas ce coup-ci. Là, on a un bureau d'études indépendant qui travaille avec nous. Mm-hmm. Et l'idée, c'est que ce bureau d'études repasse après travaux pour suivre vraiment la tendance d'évolution de la végétation et nous dire si vraiment on tend vers l'équilibre Molini, Bruyère, Ajon sur la parcelle restaurée. Donc ça, c'est un premier suivi. Le deuxième suivi, c'est par rapport aux oiseaux dont on a parlé tout à l'heure, les deux buzzards et le courlis-cendré, pour voir un peu si les oiseaux reviennent. Bon, alors aujourd'hui, la tendance est plutôt négative, hein, malheureusement.
Pour les oiseaux ?
Pour les oiseaux, oui.
Est-ce que c'est à cause des incendies, peut-être ? Non, ça n'a rien à voir.
Ça dépend des espèces. Par exemple, Alors, on a deux données qui sont plutôt encourageantes, dans le sens où les effectifs sont stables depuis maintenant une quarantaine d'années. Ce sont pour les deux buzzards, buzzard-cendré, buzzard-saint-martin. On a environ une vingtaine de couples qui sont recensés sur les monts d'Arrée et sur le Ménéum. Donc là, ça bouge pas trop. On est plutôt content. Par contre, les petits passereaux, donc tout ce qui est la fauvette pitchou, le bruant par exemple, donc ça c'est des tout petits oiseaux qui ont subi un lourd tribut hein, suite aux incendies de 2022. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps pour retrouver des effectifs qui soient corrects pour ces espèces. Et sinon, l'espèce star qu'on a évoquée tout à l'heure, le courlis cendré, donc là les données sont beaucoup plus inquiétantes. On avait environ 200-250 couples recensés dans les années 70 par les ornithologues. Et aujourd'hui, le dernier recensement du printemps dernier en dénombre 6 couples.
Donc c'est... Et on sait pourquoi il ne revient pas, non ?
Alors, il y a plusieurs paramètres. Hein. Il y a du coup les menaces qui pèsent sur la langue dont on a parlé. Donc la problématique d'enrésinement, l'abandon des pratiques de gestion. Donc c'est une perte d'habitat direct pour l'oiseau. Donc il ne va pas trouver les parcelles qui lui conviennent pour se reproduire. Ça, c'est une première raison. Il y a aussi la fréquentation. On va en parler peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a, depuis le Covid, souvent quand on discute avec les maires des communes des mandarins, ils nous disent c'est vrai qu'on observe une explosion de la fréquentation.
De la randonnée, quoi.
De la randonnée, ouais. Du vélo, de l'équitation, du parapente. Enfin, il y a tout un tas d'activités de nature qui se développent et qui vont déranger ces oiseaux qui nichent au sol, qui sont très sensibles au dérangement. Donc, ça, c'est un deuxième facteur de baisse de population. Et il y a aussi sans doute d'autres paramètres qui nous dépassent un peu, qui sont liés au changement climatique. Ce sont des oiseaux migrateurs, donc qui parcourent de grandes distances pour aller passer l'hiver, puis revenir se reproduire dans les mandarins. Donc là, il y a des oiseaux qui se perdent en route, qui mettent trop de temps, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui meurent d'épuisement. Donc,
ou peut-être qu'ils restent dans leur zone d'hivernage parce qu'il fait moins froid. Non, ça on ne sait pas.
On ne sait pas forcément, ouais. Non. Mais après, voilà, on reste malgré tout positif parce que quand on discute avec nos ornithologues, ils nous disent qu'il y a aussi sans doute des paramètres, enfin des cycles biologiques qu'on ne maîtrise pas forcément. Et du coup, ils nous disent que c'est possible que dans 10-15 ans, les courlis reviennent en nombre. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on maintienne notre effort de restauration d'habitat favorable à leur reproduction pour que le jour où ils arrivent en nombre, bah, ils aient de quoi faire pour se reproduire, quoi.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là ? Il vous reste 2 ans, c'est ça ?
Il nous reste 2 ans
de programme. Donc, ouais. Ça sera quoi les priorités ?
Alors, il nous reste 2 ans, oui. Donc là-dessus, on compte mettre l'accent sur les actions pour essayer de mieux encadrer la fréquentation ou la surfréquentation des sites. Là, on vient d'en parler. Alors, il y a tout un premier travail qui a été fait au démarrage du projet. Avec l'ensemble des usagers des Landes, donc que ce soit les élus, les habitants, les
pratiquants. Il y a eu une fête de la Lande, je crois.
Aussi, qui a lieu tous les ans. Ouais. Même les pratiquants, on a évoqué les vététistes, les cavaliers et autres, pour essayer de poser un diagnostic commun qui soit partagé par tout le monde et enfin qui nous permette d'aboutir à un programme d'action qui, là aussi, soit partagé par tout le monde. Il n'est pas question de nuire à l'un plus qu'à l'autre. Et donc ça s'est passé en 2022-2023. Et là, on est censé du coup passer à la phase de travaux, on l'espère, cet automne, si tout va bien. Et donc, parmi les actions qu'on va mettre en place, on peut citer la fermeture de parkings sauvages qui n'ont pas lieu d'être, qui attirent des gens qui vont pouvoir se promener et déranger potentiellement des animaux. On va fermer aussi des sentiers dits surnuméraires. Donc, ce sont des sentiers pareil, qui n'ont pas lieu d'être, qui quittent la trace principale pour aller sur un rocher, prendre la photo.
Sentiers sauvages.
Voilà, c'est ça.
D'accord, okay.
Donc, on va essayer de les fermer aussi. Et il y a tout un volet aussi. On va poser des panneaux pour expliquer aux gens pourquoi on fait ça, quel est l'intérêt de préserver la biodiversité et quels sont les bons gestes et les bonnes pratiques à avoir quand on se promène dans les Landes. Quoi.
Voilà. Et puis, vous renouvelez les contrats avec les agriculteurs aussi, c'est ça ? Voilà, il y a une échéance très prochaine, notamment.
Oui, effectivement. L'idée aussi du projet LIFE, c'est donc, certes, on restaure des parcelles, mais derrière, on les met à disposition des agriculteurs. Donc, il y a vraiment un deal gagnant-gagnant entre le parc et les agriculteurs. Donc là, pour vous donner un exemple très concret, en 2023, donc l'automne dernier, on a rouvert une vingtaine d'hectares de landes sur la commune de La Feuillée. Donc ce sont des parcelles qui appartenaient soit à des propriétaires privés, à la commune elle-même, ou également au conseil départemental. Donc on a rouvert ces 20 hectares et maintenant, aujourd'hui, là, avec mes collègues en charge plutôt du volet agricole, on a lancé un genre d'appel à projet, si vous voulez, pour mobiliser les agriculteurs de La Feuillée ou des communes alentours pour qu'ils viennent, pour qu'ils s'engagent à gérer ces 20 hectares. Donc là, l'appel à candidature est en cours, se termine vendredi prochain. Et donc là, on va pouvoir sélectionner tel agriculteur pour telle parcelle.
Et il y aura des volontaires.
Oui.
Ah oui, parce qu'ils sont motivés quand même, parce que c'est peut-être du boulot aussi, gérer la lande, c'est sympa, mais enfin bon.
Oui, c'est du boulot, c'est sûr, mais souvent quand on discute avec eux, il y a un attachement familial, historique, culturel à la gestion de cette lande. Certains nous disent qu'ils aiment bien venir, c'est un peu leurs vacances, ils montent à la montagne pour faucher leur lande, ils sont très contents. Mais c'est vrai que c'est du boulot, c'est un engagement aussi. Nous, on leur demande de s'engager sur plusieurs années hein, pour garantir la pérennité de nos travaux. Mais c'est aussi intéressant pour eux parce qu'ils vont faire des économies d'achat de paille, par exemple.
Oui.
Mmh. Ça leur permet de faire de la litière qu'ils n'auront pas achetée. Et quand on voit en plus que le prix de la paille a tendance à augmenter ces dernières années par rapport au changement climatique, aux sécheresses et tout, donc c'est une économie intéressante pour eux aussi, quoi.
Et en termes de population, de démographie agricole, enfin, il n'y a pas trop de vieillissement de ces agriculteurs-là. Enfin, il y aura de la relève.
Alors c'est vrai que c'est un problème qui est clairement identifié, ouais, avec mes collègues là. Donc on bosse beaucoup avec les agriculteurs cédants, donc qui vont partir à la retraite.
Vont transmettre.
Voilà.
Enfin, on espère.
On l'espère, c'est ouais. Ça. Il faut trouver les volontaires qui soient prêts à reprendre la ferme, les parcelles, à s'engager aussi dans la gestion de la lande. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est une des actions aussi, un des objectifs du projet LIFE aussi, c'est d'essayer de pérenniser cette activité ancestrale. Pourquoi pas, si on peut installer un nouvel agriculteur ou plusieurs nouveaux agriculteurs dans nos landes restaurées, ce serait super. Ou au moins, en tout cas, maintenir l'effectif actuel pour faire en sorte que nos landes soient gérées le plus durablement possible, le plus longtemps possible.
Bon, ben on lance l'appel hein, sur nos ondes.
Oui.
Merci beaucoup
avec plaisir.
D'être venu. Puis ben, vous reviendrez à la fin pour faire le bilan,
voilà, on reviendra
bilan final.
Faire le bilan. Tout
Merci.
À fait.